Bonjour à toutes et à tous. C'est en effet une émission spéciale que nous vous proposons ce 11 novembre qui n'est pas comme les autres puisque il y a 100 ans se signait l'armistice, la fin de cette grande guerre qui laisse en lambeaux l'Europe entière et les peuples. Et aujourd'hui, nous portons un regard singulier sur cette période de la Grande Guerre à travers la parution d'un ouvrage qui s'intitule « Être prisonnier civil au camp de garnison dans les Hautes-Pyrénées entre 1914 et 1919 ». Un ouvrage collectif qui a été dirigé par deux personnes qui sont dans ce studio. D'abord, Sylvaine Guin-Laurinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine et vous avez contribué à la direction de cet ouvrage collectif avec Pascal Leroy-Castillo, qui est là aussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des archives et du patrimoine du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et je disais que le regard que nous allons porter sur la Grande Guerre aujourd'hui, il est très très particulier parce qu'il s'ancre dans une proximité pour un certain nombre de ceux qui nous écoutent. C'est Garnison dont on parle, oui, l'école de Garnison, parce que peut-être que vous la connaissez comme ça aujourd'hui. Mais Garnison était aussi un camp pour des prisonniers civils. Et nous allons là le découvrir. Et puis pour ceux qui sont plus loin et qui connaissent peut-être moins Garnison, vous allez découvrir qu'on a réservé un sort tout à fait particulier aux Allemands, aux Austro-Hongrois, aux Ottomans, aux Bulgares, vous nous direz encore d'autres nationalités qui vivent dans l'Empire français au moment où se déclare la Grande Guerre. On les enferme. On les enferme où? Notamment à Garnison. Alors, vous allez d'abord nous dire la nature de l'ouvrage que vous publiez, qui est un gros livre. C'est vraiment très, très particulier comme façon de faire de l'histoire parce que vous avez laissé une large place à des photos. 200 photos, c'est à peu près le nombre, hein.
Oui, on peut découvrir dans cet ouvrage un peu plus de 200 photos sur un fond qui en contient un peu plus de 400. Donc c'est notre volonté première, ça a été de mettre en valeur ce fond photographique tout à fait exceptionnel et en partie inédit pour aborder l'histoire de ce camp à partir des photographies.
Oui, pardon. Vous avez dit que... ce livre donne une large place à la photographie. Moi, je corrigerai un tout petit peu le terme large. Ce livre, nous voulons qu'il donne la première place à la photographie.
Il y a quand même des notices et des textes qui sont assez conséquents. On reviendra sur cette histoire à travers les photos et les textes. Ces photos, ce sont des photos de quoi? Qu'est-ce qu'on peut photographier dans ce camp qui puisse permettre de publier 200 photos?
Alors, ce sont des photos des hommes et des femmes, des enfants même, qui ont été internés dans ce camp.
Donc des familles, des célibataires, oui. Des religieuses, des religieux.
Tout à fait.
Toute la société, dans sa diversité, se retrouve là.
Exactement. Et on les retrouve à travers ces photos. Également, les militaires qui ont encadré la vie du camp, donc les lieux. Qui se découvrent à travers ces photos. Donc ce sont des photos de groupe, également des portraits.
Lorsqu'on feuillette cet ouvrage qui est épais, en fait on est pris par l'émotion. Parce que soudain l'histoire, vous allez sans doute le confirmer, parce que c'est sans doute ce que vous avez vécu, vous, en découvrant ces photos. Soudain l'histoire s'incarne, on se dit mais oui, ce sont des vrais gens qui étaient là, ce n'est pas un camp...
Oui.
De façon abstraite. Quoi.
Oui, c'est bon. Pascal Leroy-Castillo est à l'origine de ce projet puisque elle avait connaissance de ce fonds conservé par les pères de Garnison et transféré ensuite aux archives du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et lorsqu'elle m'en a parlé, lorsqu'elle m'a montré les premières photographies, moi j'ai tout de suite ressenti une émotion. Effectivement, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors je suis historienne. L'historienne ne travaille pas, en principe, à l'émotion.
C'est pour ça que je vous provoque un peu.
Il travaille avec des méthodes qui sont les siennes, bon, scientifiques entre guillemets, enfin, en croisant les sources, en les analysant, en essayant de les interpréter, etc. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire. Mais cela ne l'empêche pas, et moi je pense que c'est beaucoup mieux, hein, d'avoir de l'empathie pour son sujet. Et là, effectivement... l'historien et l'archiviste ne peuvent pas rester indifférents devant les portraits d'enfants, les portraits de groupes, les portraits de femmes qui sont présentes dans ce fonds. Et donc, effectivement, l'émotion est là. Ben, quand on travaille, il faut faire avec, il ne faut pas se laisser submerger par elle. Mais je pense qu'elle elle permet de faire une histoire à échelle humaine, voilà. Comme devrait l'être toute histoire, d'ailleurs.
Oui, et puis, en fait, à travers ces photos d'hommes, de femmes, d'enfants, on prend conscience, même si on le sait, mais là, c'est vraiment, on le touche presque, le fait que la guerre, du jour au lendemain, va faire basculer leur vie parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est aussi, en quelque sorte, l'absurdité de ces périodes de conflit qui génèrent des souffrances au sein des familles.
Justement, racontons un peu maintenant l'histoire de ce camp. Comment se fait-il qu'à Garaison, on décide d'ouvrir un camp ? Et un camp pour qui ? Redites-nous un peu les éléments fondamentaux.
C'est le ministère de l'Intérieur qui décide d'ouvrir plusieurs dizaines de camps en France. Et ces camps sont souvent installés dans des anciens établissements religieux parce que ces établissements, en 1914, sont libres. Les lois contre les congrégations, notamment la loi de 1903, a en effet expulsé de nombreux religieux et de nombreuses religieuses, et donc laisser libres des locaux comme ceux de Garaison. On avait d'ailleurs, enfin, l'administration française avait d'ailleurs réfléchi à ce qu'elle pouvait faire de ces locaux. En 1911, on avait imaginé installer là un asile d'aliénés. Et puis, la guerre éclate, et donc, partout en France, il faut des camps pour interner, on dit pour concentrer, parce qu'en fait, il s'agit d'un camp de concentration, au sens de ce terme en 1914, donc pour concentrer des populations qu'on considère comme ennemies, c'est-à-dire des gens qui parfois vivent depuis très longtemps en France, peuvent être nés en France ou pas, mais en tout cas ils vivent parfois depuis longtemps, mais qui ont la mauvaise nationalité, c'est-à-dire la nationalité de l'ennemi.
Ce sont donc des Allemands, des Autrichiens,
des Austro-Hongrois, des Hongrois, des Bulgares, des Ottomans. Bon, pour les Ottomans, c'est très intéressant. Chacun essaie de montrer qu'il est sujet ottoman, mais qu'il est plutôt grec qu'autre chose, parce que les Grecs, bon, on ne les considère pas totalement comme des ennemis. Donc, voilà, il y a des petits arrangements de ce genre. Mais en fait, les gens sont là à cause de leur nationalité. Oui.
Combien de personnes seront internées dans ce camp ?
Certains historiens qui ont travaillé un petit peu sur la question avancent le chiffre de 2200, 2500 internés qui ont pu passer dans le camp. Il faudrait faire des statistiques un peu plus poussées à partir en particulier des fonds qui se trouvent aux archives départementales. Mais c'est à peu près les estimations que nous avons à ce jour, sachant que la capacité des locaux de mémoire avait été estimée par l'administration à 1200, 1500 personnes à peu près, au maximum en même temps dans le camp.
Et dès le jour de l'ouverture du camp, dès le 7 septembre 1914, il y a entre 700 et 800 personnes qui arrivent dans le plus grand chaos. Enfin, on n'a absolument rien pour les accueillir. Hein.
Donc on rappelle que nous parlons là du camp de Garaison. Du camp de Garaison qui s'ouvre en 1914 et qui sera fermé en 1919 et qui accueille, vous nous l'avez dit, hein, l'une et l'autre, vous qui avez co-dirigé cet ouvrage collectif, Être prisonnier civil au camp de Garaison, qui accueille des personnes qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai envie de vous provoquer à nouveau en vous disant, mais ils n'ont pas l'air malheureux ces gens-là. Quand on feuillete cet album de cette grande famille de Garaison, puisqu'ils en font partie malgré eux, hein, à ce moment-là, ils sont là, ils vont vivre des mois, des années dans ce lieu. Il y en a qui sourient, il y a des enfants qui ont l'air heureux, des familles.
En effet, c'est une des particularités de ce fonds, c'est que quand on feuillette cet album, on se dit finalement, la vie n'était pas si dure dans ce camp de Garaison. En fait, je crois que au-delà de ce que ces photos donnent à voir, on est dans une période où on pose, hein. Donc il y a une codification, c'est assez étudié. Donc ce sont d'abord des photos posées, à travers aussi le fait de vouloir donner l'image la meilleure possible de soi-même, parce qu'on le voit bien, les hommes tentent de mettre leur plus beau costume, les femmes portent parfois des chapeaux. On veut vraiment donner à voir que, je pense, la vie continue en dépit de tout, et en dépit de l'internement. En tout cas, c'est l'analyse que nous avons faite de cette particularité. C'est qu'on veut donner à voir qu'on reste digne, en dépit des conditions.
Il n'y aurait pas un peu de propagande quand même ?
Alors oui, parce que l'administration, elle édicte des règles aussi à la prise photographique. Elle autorise des photographes professionnels qui sont internés dans le camp, ou des photographes amateurs, mais qui ont une certaine habileté, à prendre des photos. Mais alors, en principe, il ne faut pas photographier la vie quotidienne. Or, la vie quotidienne est quand même montrée. Bon, là, je n'en dévoile pas plus, le lecteur le découvrira. Et donc, les portraits aussi sont autorisés. Mais là, bon, nous ne savons pas exactement dans quelles conditions. Peut-être les familles rémunéraient-elles les photographes, même certainement, pour envoyer ensuite ces clichés à des amis ou à des parents qui étaient éloignés. Donc, l'administration, oui, elle a tout intérêt à montrer que on vit relativement bien à Garaison. Mais la photographie ne montre aussi que certaines choses. L'intime n'est pas montré, par exemple. L'intérieur des bâtiments est très peu montré. On a quelques photos de dortoirs ou d'ateliers, mais très peu. Parce que là, les conditions sont moins bonnes quand même qu'en extérieur. Et voilà, donc évidemment, tout est filtré par l'administration quand même.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de Pascal Leroy-Castillo, qui est responsable des archives du patrimoine du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et Sylvaine Guin-Lorinet, qui est maître de conférences en histoire contemporaine, et que vous avez co-dirigé un ouvrage sur le camp de Garaison, être prisonnier civil au camp de Garaison, paru aux éditions Kern. Et ce camp s'est déployé entre 1914 et 1919. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui même. Et nous regardons cette grande histoire à travers un prisme particulier qui est cet ouvrage qui laisse, vous nous l'avez dit, une très large place et la première place à la photographie sur la base d'un fond photographique remarquable qui nous montre la vie quotidienne dans ce camp. Alors justement, quelle est-elle cette vie quotidienne ? Parce qu'on peut être dans une oisiveté qui ronge dans un camp comme celui-ci. Est-ce que c'est une petite société qui se reconstitue au fur et à mesure des mois dans le camp de Garaison, avec des loisirs, des joies, des peines, des activités ?
Oui, tout à fait. La vie continue, en dépit de l'enfermement et du manque de liberté. La vie continue, et d'ailleurs, il y aura des naissances au camp et des décès également. On traite cet aspect-là dans un des chapitres de l'ouvrage. Ce que nous donnent à voir les photos de la vie quotidienne, ce sont beaucoup de moments de convivialité, de partage autour d'une table. On peut supposer que c'était des moments importants aussi pour la vie des internés, que ces moments où ils étaient à l'extérieur des locaux. Et là, on voit bien que, comme vous le soulignez, il y a une micro-société qui reprend vie et à travers ces moments de repas, de partage. Un certain nombre de ces photos sont également prises à l'extérieur du camp à l'occasion de balades. Et il y a aussi toute une série prise sous la neige. Parce qu'il faut bien se dire qu'en hiver, sur le plateau de Lannemezan, les conditions de vie ne devaient pas quand même être très faciles, surtout quand les bâtiments n'étaient pas chauffés et que les conditions au quotidien étaient rudes.
Oui, ce qu'il faut préciser peut-être pour les auditeurs, c'est qu'effectivement, les internés ont le droit de se promener dans un rayon de un kilomètre autour de l'enceinte du camp. Voilà. Donc c'est limité, mais ils en profitent quand même. Hein. Et on a d'ailleurs des témoignages écrits qui nous disent que la nature à l'automne, les Pyrénées par beau temps, c'est absolument magnifique.
On s'échappe de ce camp ?
Oui. Oui, il y a quelques cas. Pas beaucoup, mais il y en a. Et certains font preuve d'un peu d'ironie. Un tel interné, une fois arrivé en Espagne, envoie une carte au directeur du camp.
Que dit-on sur le plateau de l'Admezan ? Vous avez employé cette expression tout à l'heure, Pascal Leroy Castillo. Que dit-on de ce camp ? Est-ce qu'il y a encore une mémoire vivante de l'existence de ce camp ? Ou bien on a mis les thés noirs, ou pour une raison ou une autre, on n'en parle pas tant que cela ? C'est une histoire enfouie.
Cette histoire est enfouie et d'ailleurs ce serait assez intéressant de lancer une campagne de collecte de mémoire orale auprès des descendants des habitants du plateau, parce qu'il reste sûrement dans les familles traces de cet événement et en tout cas de cette période. Mais c'est vrai que cette mémoire sur le plateau de l'Admezan, elle semble en tout cas...
Elle ne remonte pas facilement la surface.
Voilà. Merci de m'aider,
ouais,
tout
non,
à fait.
Je
par contre, on se rend compte qu'au sein de l'établissement et de la congrégation, cette mémoire a toujours été entretenue, d'une part parce qu'il y a un frère qui était présent dans les lieux pendant toute la période du camp, frère Guillaume, qui a écrit son journal, en quelque sorte, de la période, qu'il intitule les souffrances de Garaison. Et au fil du temps, donc, on va retrouver, à travers les publications de Garaison, des articles de ce camp qui, en fait, cette période de guerre, c'est aussi la période des souffrances de Garaison entre 1903, l'expulsion des religieux, et 1923, le rachat. Du sanctuaire et des bâtiments de l'établissement scolaire.
Ce qui peut expliquer peut-être que la mémoire locale soit un peu faible, indépendamment de celle de l'institution, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les populations locales et les internés, des échanges économiques essentiellement. Et peut-être que quelque part, il y a un sentiment inconscient de culpabilité de la part des populations environnantes. Enfin, ça, c'est un phénomène qu'on trouverait dans d'autres camps. Par exemple, qu'on retrouve autour du camp de Gurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les Basses-Pyrénées, enfin, les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui.
Nous avons dit tout l'intérêt qu'il y a à acquérir cet ouvrage qui permet d'avoir vraiment un album photographique incroyable de cette tranche de vie, avec la compréhension ou la découverte d'une tranche d'histoire là, spécifique, qui est dans le cadre de la Grande Guerre, la spécificité de ce qui s'est vécu à Garaison. Un autre intérêt de l'ouvrage, c'est le regard croisé, c'est peut-être par là qu'on va terminer. J'ai dit à plusieurs reprises que c'était un ouvrage collectif, que vous avez co-dirigé, mesdames. Regard croisé de qui, au fond, par des historiens, vous auriez fait appel à qui pour croiser quel type de regard ?
Le regard des historiens, du privé, puisque les archives ecclésiastiques sont privées, et du public, puisqu'une partie du fonds de la gestion administrative du camp se trouve dans les archives départementales. Donc, croisement aussi de ces sources, hein. De nature différente. Donc des historiens, des archivistes qui travaillent en local, mais également l'apport de certaines personnes, en quelque sorte quelques experts, si on peut dire, qui nous ont permis de mettre en lumière des spécificités de ce fonds. Je pense par exemple à Madame Elisabeth Parinet, professeure émérite à l'École nationale des chartes, qui nous apporte son expertise sur la particularité de ce fonds photographique. Je pense à Jean-Noël Grandhomme, professeur à l'université de Lorraine à Nancy, qui aborde la question tout à fait particulière et spécifique des Alsaciens lorrains. Je pense à Ronan Richard, docteur en histoire à l'université de Rennes, qui situe ce camp par rapport aux autres camps. Je pense également à l'île de Rachel. Alors ça, c'est une particularité aussi de l'ouvrage. C'est de mettre en lumière le journal d'une internée qui, à ce jour, n'a pas été publié. Donc, l'île de Rachel, petite fille d'Hélène Fürnkranz, qui a écrit un journal d'internée au camp de garnison. Alors, je n'ai pas cité les locaux de l'étape, je vais quand même le faire tout de suite. Donc, Cédric Boët, des archives départementales, ainsi que François Justiniani, le directeur de ces mêmes archives départementales, José Cubero, professeur d'histoire-géographie, Jean-Michel Delavaux, professeur d'histoire-géographie à l'institution Notre-Dame de Garaison, et Thomas Ferrer, professeur d'histoire et géographie au lycée Jean Dupuy de Tarbes. Je crois que je n'ai oublié personne.
Merci beaucoup pour cette émission spéciale avec vous, Pascal Leroy-Castillo et Sylvaine Guin-Lorinet. Merci, et puis on rappelle l'ouvrage « Être prisonnier civil au camp de Garaison » paru au Cairn.
Merci.